Question franche sans langue de bois. Question franche sans langue de bois.
Il est bel et bien avec nous, Brice. Bonjour.
Bonjour André.
Alors nous sommes très heureux d'être avec vous parce que vous êtes donc à l'initiative donc d'une ONG, Amistad, Action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement. Globalement, donc, quand on entend ça, on se dit c'est tout à fait simple, hein, ce que vous souhaitez. Faites-nous le rappeler, c'est quoi votre objectif principal au cœur de cette ONG Amistad?
Merci. Et notre objectif, c'est d'amener les acteurs, qu'ils soient privés, publics ou de la société civile, à intégrer les principes de développement durable dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans leurs activités.
Ben ça va, aujourd'hui c'est facile, hein, tout le monde se lève, ils ont envie de faire le développement durable, ça va, j'ai réussi à faire ma maîtrise, après c'est compliqué, j'arrive pas à parler aux employeurs, je dis bon allez, c'est bon, je vais créer mon ONG. C'est un peu ça ou pas là, c'est facile?
Pas tant que ça, parce que il faut savoir que si vous engagez dans une démarche pareille, il faut avoir d'abord de la compétence. Il faut étudier. Moi, j'ai étudié la gestion de l'environnement, les ressources naturelles.
Compétence. On peut diriger une ONG, mais il faut être compétent.
Oui. Ensuite, il faut de façon perpétuelle, continue, se former, parce que c'est très dynamique. Oui. Il y a des nouvelles normes qui viennent, il y a des nouvelles initiatives, il y a des nouveaux engagements. Donc, il faut suivre toute l'actualité, il faut participer à des rencontres internationales, il faut discuter avec d'autres acteurs. Et puis, ce qui est intéressant dans l'initiative, c'est que vous ne travaillez pas en vase clos. Parce que moi, par exemple, je suis dans l'environnement, mais je travaille avec des gens qui sont sur les questions d'urbanisme, sur les questions de transport, sur les questions sociales, sur les questions politiques, pourquoi pas, parce que il y a un aspect politique
absolument, la question de l'environnement est totalement intégrée, on le voit bien, alors ça c'est intéressant. Et quand on regarde l'ensemble de vos documents de présentation, il y a une chose qui revient, c'est à propos de votre vision, créer une Afrique durable. Donc la question de la durabilité, c'est un débat qui est dans l'espace public, mais beaucoup n'ont pas encore saisi, n'ont pas encore compris justement toutes les implications. C'est quoi la durabilité dans le cas d'espèces? Vous parlez de nos villes, de nos pays, etc.
Alors, je vais prendre une image très simple pour vous expliquer la durabilité. Quand nous étions au village, nous étions petits, par exemple, quand maman finissait de faire la lessive, elle essayait de mettre les linges au soleil. Donc, elle utilisait l'énergie solaire donc pour pouvoir sécher les habits et l'énergie éolienne pour pouvoir sécher les habits. Lorsqu'on avait fini de nettoyer la cour et tout ça, il y avait un endroit où tout le monde partait verser les ordures. Et puis, un moment, papa vous dira, allez-y chercher la terre noire, là où on jette les ordures, pour planter le mangue dans la cour. Et ça, c'était en réalité du compost qu'on partait chercher.
Absolument.
Donc, la durabilité dont on parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est rentré dans un monde de consumérisme très exacerbé. Et donc, on utilise les ressources naturelles à un rythme tel que la terre ne pourra plus continuer à nourrir les hommes si on continue dans cette dynamique. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant apprendre à utiliser de façon rationnelle les ressources dont nous disposons, parce que ce sont des ressources qui sont limitées. Un exemple très simple, la Côte d'Ivoire est un pays forestier. Alors, dans les années 1900, nous étions autour de 60 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 millions d'hectares de forêt. Donc, vous avez compris que la population a augmenté, les villes se sont agrandies, les besoins ont aussi augmenté. Donc, on a attaqué les forêts. Donc, comment est-ce qu'on arrive, par exemple, à préserver cette biodiversité pour nos enfants et nos arrière-arrière-petits-enfants qui pourront peut-être demain voir un éléphant, une girafe, etc. Et c'est pour cela que nous nous engageons dans le concept de développement durable.
Ben évidemment, M. de Berbignon, par exemple, aimerait bien se balader ici à Koumassi avec sa girafe juste à côté. Et ben, c'est tout ça aussi que vous voulez promouvoir. Enfin, c'est pour rire. Alors, une chose est sûre. Alors, à parler de la question de la durabilité. Et je voudrais finalement vous poser une question un peu choc. Est-ce que la ville africaine pose problème?
Ah oui. Je vous réponds tout de suite, oui. Les villes africaines sont pratiquement les mêmes. Vous êtes à Abidjan, vous partez à Cotonou, vous êtes à Lomé. Excusez-moi le terme, mais c'est le même désordre, c'est le même frou-frou, c'est les mêmes embouteillages, c'est le même délestage. Vraiment, toutes les villes africaines, à l'exception de quelques-unes, mais vraiment de quelques rares villes qui ont démarré une sorte de transformation. C'est par exemple Kigali.
Kigali, on en parle.
C'est par exemple un peu Diamniamo au Sénégal, qui est en train donc de faire une ville durable, une ville nouvelle et tout ça. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le concept de ville durable, c'est une expression qui désigne une unité urbaine qui respecte les principes de développement durable et les principes d'urbanisme écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les principes de développement durable, vous avez une activité, vous devez tenir compte de trois choses. La première, est-ce que votre activité est économiquement rentable?
Oui. Okay.
Est-ce que votre activité est écologiquement viable? Est-ce que votre activité est socialement inclusive?
Très bien.
Ça veut dire quoi? Vous prenez le cas de la, du transport à Abidjan. Le transport à Abidjan, il est économiquement rentable.
Oui.
Mais il n'est pas socialement inclusif. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez Abidjan, vous prenez la commune de Bingerville,
par exemple,
pour aller au plateau et que vous mettez 3-4 heures, oui, franchement, ben, mieux vous restez chez vous à la maison.
Bah, même quand vous avez dit économiquement viable, ça pose aussi un problème parce qu'il y a le coût des embouteillages.
Hein. Le coût.
Parce que vous savez, voilà, si vous passez 4 heures dans les embouteillages alors que vous devez être productif au boulot, tout ça, ce sont des pertes pour l'économie. Très bien. Ça, en tout cas, on comprend bien l'ensemble de vos propos. Je souhaiterais donc, pour le coup, revenir un peu sur vous, votre activité. Vous pensez aujourd'hui, c'est un beau discours. Moi, j'aime d'entendre la jeunesse ivoirienne parler comme ça avec compétence des sujets qu'elle maîtrise. Mais est-ce que vous n'êtes pas fait finalement pour ces grands forum, vous allez vous retrouver entre les boss, ils vous font une petite place, vous, la COP 15, on en a parlé, vous bavardez entre vous, c'est bien joli, on vous paye tout le tel, et ben voilà, ça roule quoi en fait. Finalement, est-ce que vous servez à grand chose?
Ok, nous servons à grande chose, et il faut savoir qu'aujourd'hui en 2022, quand il y a eu la question sur Dahlia Fleur, vous avez vu un peu tout ce que ça a créé comme levée de bouclier.
Et ça, c'est intéressant, on va ouvrir, parce que aux dernières nouvelles, cette histoire de Dahlia Fleur est en train d'être complètement abandonnée, enfin, le projet principal. Donc, vous vous dites, finalement, voici un exemple où on peut être utile.
Oui, et là, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à parler de développement durable en 2005-2006, j'avais une chronique sur la chaîne nationale. Tout le monde se disait, mais quel est ce jeune homme qui arrive et qui nous demande de ne pas couper les arbres, de protéger les animaux? Mais tout le monde pensait que je venais d'ailleurs. Mais non, moi j'ai étudié en Côte d'Ivoire. J'ai eu mes diplômes en Côte d'Ivoire et j'ai fait beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres internationales.
Là, par
mais
exemple, pendant la COP, vous étiez aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire que vous avez une compétence avérée. On vous sollicite un peu partout pour parler des questions de développement durable.
Oui, et donc, lorsqu'on a commencé à parler de ça, tout le monde pensait que c'était de l'utopie. Mais aujourd'hui, ceux-mêmes qui ont commencé à parler de la protection de Dahlia Fleur, c'était même pas les environnementalistes au départ.
Ouais.
Et ça, c'est très important. Ça veut dire que notre combat a porté. Et aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin sur la question des villes et territoires durables. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, la conscience environnementale est en train de prendre. OK, on va continuer à soutenir cette conscience environnementale, mais il faut qu'on aille au-delà. Quand on parlait tout à l'heure des questions d'embouteillage, pourquoi tout le monde se concentre à Abidjan? Mais c'est parce que tout est concentré à Abidjan. Et lorsqu'on parle de développement durable ou de ville durable, ce n'est pas de rester seulement sur un petit territoire et de développer toutes les activités. Il faut voir comment aujourd'hui on arrive à créer les mêmes opportunités à Abidjan qu'à San Pedro, qu'à Korogo, qu'à Buna, qu'à Bengourou, pour que les gens puissent partir. Et je me rappelle un peu la vision du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez vu un peu la manière dont Yamoussoukro a été créé. Vous avez vu la manière dont toutes les infrastructures ont été disposées. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une ville qui a des routes plus larges que les rues de Yamoussoukro. Il n'y en a pas. Mais il avait déjà cette vision.
Mm-hmm. Okay,
il avait même pensé même à faire partie de la capitale politique à Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, tout est concentré sur Abidjan.
Ouais.
Ce qui fait qu'Abidjan ne peut pas faire partie des villes durables dont on parle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être mises en place pour que Abidjan puisse rentrer dans ce cercle-là. Nous avons par exemple le BRT, donc le bus transit rapide.
C'est ça,
qui va être créé,
des voies qui sont dédiées exclusivement au bus, par exemple.
Voilà. On est en train de voir des routes, des ponts qui se créent, etc. Ça, c'est déjà une dynamique qui est encouragée.
Très
mais
bien.
Il faut que les élus locaux, je le dis très bien, il faut que les élus locaux saisissent l'opportunité pour rendre attractif leur territoire.
Parce très que bien.
Aujourd'hui, on ne peut pas rester à Abidjan et puis vouloir vivre. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui vit à Cocody, permettez-moi l'expression, mais si vous n'avez pas au minimum 300 à 400 000 francs comme salaire mensuel, vous ne pouvez pas vivre à Abidjan. Parce que
très
le loyer est très élevé,
oui,
le niveau de vie est élevé. Mais par contre, si vous vous retrouvez à Boisflay, par exemple, avec 200 000 francs, vous avez une bonne vie, vous avez une maison.
Vous êtes 3, au quartier 4, millionnaire.
Au millionnaire, par exemple, avec un espace où votre enfant peut jouer dans le jardin, etc. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les collectivités territoriales à rendre leur collectivité attractive.
Alors, vous avez parlé de collectivité territoriale, vous êtes aujourd'hui comme des experts et des accompagnés. Et nous avons là, parce que vous étiez à la deuxième édition de Fort à Vide, c'est le Forum africain des villes durables. Et je voulais toujours revenir là-dessus, vous allez dire que non, je tape un peu dessus. Bon, un forum des villes durables, on sait que dans la ville, il y a qui ? Dans la ville, il y a bien sûr les collectivités elles-mêmes, il y a les municipalités, les dirigeants, et puis il y a surtout les habitants. Mais quand je regarde tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, ville durable, on venait voir tout ça, sous le parrainage d'Akawele, sous le parrainage de monsieur le président de l'association des machins, Kandia Camara, ministère de ceci. Enfin, finalement, je veux dire, si ces forums, on a plus le sentiment que c'est fait pour épater nos dirigeants que plutôt inciter nos populations à prendre une part active justement à la construction durable de nos villes.
Alors, je prends un autre exemple pour vous expliquer cela. L'école existe. Tout le monde va à l'école, mais tout le monde ne réussit pas par l'école.
Ouais.
Voilà. Ça veut dire quoi? On a des rencontres, tout le monde participe à ces rencontres, mais chacun voit comment est-ce qu'il peut tirer profit de ces rencontres. Aujourd'hui, il est important pour nous de nous retrouver pour discuter, parce que nous avons, chaque acteur a des objectifs différents. Donc, il faut arriver à se mettre d'accord sur le minimum. Et c'est pour cela, par exemple, quand on fait le Forum africain des villes durables, on met en place, là, par exemple, le thème de cette année, c'était sur la coopération. Comment est-ce que la ville durable peut être un outil de coopération et d'intégration? Mais c'est très important. Le pays invité, c'est le Royaume du Maroc.
C'est important, mais enfin, où sont les populations dans cette affaire?
Mais non, les populations sont représentées par les associations, parce qu'on ne peut pas prendre tous les citoyens pour participer.
Très bien. Vous savez, c'était ce qu'on avait reproché aussi à la COP15, etc. Et là, votre réponse, elle est assez claire. Donc, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de ce forum-là, pour être très concret, en termes d'échange, en termes de remontée d'informations, pour permettre concrètement justement aux villes d'en tirer parti de ce forum?
Alors, déjà les recommandations du forum. La première recommandation, l'une des recommandations, c'est par exemple d'encourager la coopération décentralisée, la coopération sud-sud. Aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller faire un partenariat quand vous êtes une collectivité avec une collectivité européenne, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes réalités. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la question de l'intégration africaine. Vous savez, par exemple, que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante pour l'Ouest africain. Maintenant, comment on arrive à accepter tous ceux qui viennent chez nous à participer à l'économie de notre pays? Maintenant, il faut aussi que les collectivités aussi puissent avoir aussi des experts autour d'elles, parce que un maire, un président de conseil régional ou un ministre gouverneur de district n'a pas toute l'expertise nécessaire. Donc il faut qu'il y ait des expertises spécifiques qui l'accompagnent, et c'est ce que le forum nous recommande. Et là, je vais encore plus loin pour revenir un peu sur la question de la COP15 avec le Abidjan Legacy Programme. Ça veut dire que on s'est mis d'accord, les investisseurs, les industriels, les hommes d'affaires, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que les terres sont en train d'être dégradées. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chacun va apporter sa contribution. Le secteur privé va apporter du financement. Les médias, par exemple, vont donner des espaces, comme vous le faites. C'est votre contribution aussi.
Très bien.
Et c'est pour cela qu'on pense qu'aujourd'hui, la question du développement durable n'est plus réservée seulement aux environnementalistes, mais tout le monde a compris la nécessité, y compris les médias.
Voilà, tout le monde a compris la nécessité, y compris les médias. C'est pour cela que nous vous invitons aujourd'hui. Vous êtes Brice Delagneau, président de l'ONG Amistad, qui intervient dans la question du développement tout court, mais qui a choisi depuis quelque temps donc d'appuyer là où ça devrait permettre à la société d'en profiter plus, la question du développement durable. Est-ce que la ville, le développement durable, Gérard, est quelque chose qui marche ou tout le monde s'en fout un peu? Et c'est une question à laquelle il faut quand même inviter nos auditeurs à réagir.
Tout à fait, voilà. Donc ce matin, nous parlerons... j'ai l'impression que mon micro est un tout petit peu... je crois que là, je l'ai. Mais en tout cas, on parlera donc de la quête de la ville durable en Côte d'Ivoire. N'est-elle pas perdue d'avance, la cause
finalement.
N'est-elle pas perdue d'avance? Ou ne relève-t-elle pas de l'utopie? C'est ce matin la question qu'on vous posera sur le coup de... Enfin, après la pub, justement.
Est-ce que dans toutes vos activités, chers amis, vous êtes là, vous nous écoutez, vous êtes nombreux, est-ce que dans toutes vos activités, vous dites dans votre tête, attention, la ville durable, quand je mets mes sachets là pour le sac poubelle, je vais pas mettre un pneu dedans, ajouter de la bouffe, mettre des choses dedans. Quelle est votre façon de rendre votre ville durable? On veut entendre votre témoignage tout à l'heure au 27 225 49 880, parce que c'est pas forcément des questions très techniques.
Bien sûr.
On en parlera avec Brice, il y a des actions très très petites ou très minimes que les uns et les autres peuvent peser.
C'est ça.
On en parle avec vous dans un instant, juste après cette pause où on écoute les Youlés dans le tout petit.
Question franche sans langue de bois. Question franche sans langue de bois.